Il est aussi important de mettre sa confiance en Dieu que de lui obéir. Il est aussi important de mettre sa confiance en Dieu que de lui obéir. Quand nous désobéissons à Dieu, nous nous opposons à son autorité et nous méprisons sa sainteté. Mais quand nous ne lui faisons pas confiance, nous doutons de sa souveraineté et nous mettons en question sa bonté. Dans les deux cas, nous dénigrons sa majesté et son caractère. Dieu voit notre manque de confiance aussi sérieusement qu'il voit notre désobéissance. Dieu voit notre manque de confiance aussi sérieusement qu'il voit notre désobéissance. Et quelques jours plus tard, mon plan de lecture m'a amené à lire le verset suivant en Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de toi? Et donc je veux prêcher ce matin sur ce thème de l'incrédulité du peuple de Dieu. L'incrédulité du peuple de Dieu. Les chrétiens sincères et authentiques sont souvent découragés et brisés par le poids de leurs péchés. Ils s'associent dans leur pensée à David et à sa confession de son péché dans le psaume 51, par exemple, dans l'affaire donc de la fameuse affaire de Bathsheba et de Uri le Héthien, mais également dans le psaume 38 où ils peuvent dire avec lui: mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Ils pensent à leurs nombreux péchés liés à la chair, tels que Paul les cite en Galates 5, comme la querelle, l'animosité, la jalousie, ou à leur concupiscence des yeux, ou à leur colère, ou à la dureté de leur cœur, ou à leur manque d'amour pour les frères et sœurs en Christ, et pour les perdus, leur égoïsme, aux nombreux péchés de leur vie passée, avant qu'ils soient devenus chrétiens, et aux péchés qu'ils continuent à commettre dans leur vie présente après qu'ils aient connu Christ. Tous les jours, ils plaident auprès de Dieu dans la prière pour qu'il les lave de leurs péchés par le sang de Christ et qu'il leur donne la victoire sur ces péchés par le Saint-Esprit dans la journée qui vient. Et il est très bien, évidemment, qu'il en soit ainsi. Mais est-ce que nous ressentons avec autant de contrition, avec autant de repentance, le poids de notre péché d'incrédulité? Et est-ce que seulement nous sommes conscients, nous chrétiens, de notre péché d'incrédulité? Et donc on va voir que la parole a beaucoup à nous dire sur ce sujet. Et dans cette étude, je vais un peu utiliser un modèle d'analyse que j'ai évoqué la semaine dernière. Et c'est une définition de la foi qui a été donnée donc par les réformateurs, donc au XVIe siècle. Et donc pour ceux qui étaient parmi nous, j'en ai parlé, sinon je vais vous l'exposer à nouveau. Donc les réformateurs voyaient trois composantes dans la foi. Trois composantes dans la foi. Tout d'abord la connaissance, ensuite l'assentiment et en troisième lieu la confiance. Donc la connaissance, l'assentiment et la confiance sont pour eux les trois composantes d'une foi authentique. Par exemple, un objet de la foi, c'est que Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés. Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés. La première étape donc de la foi, c'est de connaître cette affirmation. On peut dire, je sais que les chrétiens enseignent que Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés. Connaître cela ne fait pas de moi un chrétien. N'importe quel étudiant en théologie, un peu sérieux, il sait ça sans pour autant devoir être un chrétien. Mais si je n'ai pas cette connaissance, je ne peux pas être un chrétien. D'où l'importance des confessions de foi qui ont été écrites dans le temps, comme par exemple le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople qu'on appelle le credo. D'où l'importance aussi des catéchismes sous forme de questions-réponses telles que vous les pratiquez à très juste titre dans cette assemblée. Donc la première étape, pour être un chrétien, il faut d'abord avoir une connaissance. La deuxième étape, c'est accepter que ce que cette connaissance proclame, accepter que c'est la vérité. Donc, reprendre mon exemple, c'est dire, je reconnais que l'affirmation Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés est vraie. Je reconnais que c'est vrai. Certains qui savent que c'est l'enseignement des chrétiens, qui savent que c'est l'enseignement des chrétiens, ne croient pas que c'est vrai. Les musulmans, par exemple, sauraient vous dire, certains d'entre eux en tout cas, que c'est ce que nous croyons. Mais eux, ils ne le croient pas. Ils disent que, en fait, Jésus n'est pas mort. Mais moi, je crois que c'est la vérité. Donc ça, c'est l'assentiment. Je reconnais que cette affirmation est vraie. Mais ce n'est encore pas suffisant pour faire un chrétien. Parce que ça, c'est une acceptation intellectuelle. Mais il faut une troisième chose, c'est la troisième étape, c'est la confiance. Et elle vient du cœur. Je dois mettre ma confiance dans cette vérité pour moi-même. Je crois que Jésus est mort pour me sauver de mes péchés et je mets ma confiance en lui pour mon salut. Donc ça, c'est la troisième étape de la foi. Donc il faut ces trois composantes pour avoir une foi qui soit authentique. Et donc ce que je veux faire ce matin, c'est regarder avec vous, dans différents passages de la parole, la manifestation des défaillances de la foi. Donc j'ai parlé de l'incrédulité du peuple de Dieu, donc la manifestation de la défaillance de la foi de la part de chrétiens à ces trois niveaux, connaissance, assentiment et confiance. Et qu'ensuite on en tire évidemment pour chacun d'entre nous un enseignement sur comment rectifier notre péché d'incrédulité. Et donc tout d'abord on va regarder quelques exemples de cette défaillance de la foi au premier niveau, c'est-à-dire au niveau de la connaissance. Le premier exemple que je vais prendre, c'est celui du centurion romain Corneille, qui nous est présenté en acte 10. Donc je vais lire pour vous quelques passages qu'on lit en acte 10. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » Donc il ne faisait pas de doute que cet homme avait la foi dans le Dieu d'Israël avec le degré de connaissance qui était le sien, le degré de lumière qui lui avait été donné. Le texte nous dit qu'il était pieux, qu'il craignait Dieu, qu'il faisait beaucoup d'aumônes pour le peuple et qu'il priait Dieu continuellement. On aimerait bien, franchement, chacun d'entre nous, que cela puisse être dit de nous. Son problème, ce n'était pas son degré d'assentiment, donc c'est-à-dire d'acceptation, hein, de la révélation qu'il avait reçue. Ce n'est pas non plus son degré de confiance en Dieu, pour ce qu'il connaissait de lui. Il adhérait complètement à ce qu'il connaissait de Dieu et il mettait toute sa confiance en lui. Mais son problème à Corneille, c'était son degré de connaissance. Il lui manquait quelque chose, sa connaissance était limitée et il avait besoin d'être enseigné. Et c'est ce que va faire l'apôtre Pierre. Donc un ange ordonne à Corneille d'envoyer chercher Pierre d'un côté, et Pierre, de son côté, il reçoit une révélation du Seigneur qui lui apprend de ne regarder aucun homme comme étant souillé et impur, contrairement à ce que croyaient les Juifs de l'époque concernant les païens. Or, Corneille était un païen. Donc, le Seigneur a préparé Pierre à accepter l'invitation de Corneille. Donc, Pierre se rend chez Corneille, il lui proclame la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et à la fin du chapitre 10, en particulier verset 43, on lit ceci, donc dans tout ce que Pierre déclare, il dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » On pourrait dire que c'est probable, on est là probablement au cœur de l'évangile. Et donc sur ces paroles, le Saint-Esprit descend sur Corneille et ses parents et ses amis qui étaient réunis avec lui. Et ainsi Corneille reçoit la connaissance, le savoir qui lui manquait pour être vraiment un chrétien. Cette connaissance, il la reçoit avec joie. Elle a son plein assentiment, il met sa confiance en elle et de ce fait, il reçoit le Saint-Esprit. Corneille, il nous fait penser aux apôtres que Jésus a choisis, lorsque Jésus les a choisis. Il nous fait penser à Marie qui s'asseyait au pied de Jésus pour l'écouter. Il nous fait penser à Lydie, la marchande de pourpre, de Thyatire qu'on voit en acte 16. Ces personnes, ils étaient un peu comme on a vu la semaine dernière, ils étaient la bonne terre, telle qu'elle est décrite en Luc 8, verset 15. C'est la bonne terre qui est prête à recevoir la parole avec un cœur honnête et bon. Ils avaient soif de la parole, leur cœur était manifestement préparé par Dieu, et maintenant, il ne leur manquait plus que le messager pour recevoir cette parole et leur donner cette connaissance, parce que là, il s'agit bien d'une question de connaissance. Et d'ailleurs, puisse le Seigneur amener de telles personnes dans nos églises, ou nous permettre à chacun d'entre nous de pouvoir partager l'évangile avec des personnes qui sont comme ça une bonne terre et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur annonce la connaissance. On a d'autres exemples, toujours dans le Nouveau Testament, de personnes qui ont un petit peu un déficit de connaissance. Hein. Par exemple, on a en acte 18, on a le personnage d'Apollos. Apollos. Donc, je lis pour vous verset 25. Donc, il est dit d'Apollos qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc Apollos, il était manifestement plus avancé en connaissance que Corneille, parce qu'il était instruit dans la voie du Seigneur, mais il lui manquait quelque chose. Et le texte nous dit d'ailleurs au verset 26 que Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. On a un autre juste après, au chapitre 19. C'est intéressant que ça vienne juste après, parce qu'apparemment, l'auteur des Actes, Luc, veut nous montrer quelque chose. Au chapitre 19, Paul rencontre à Éphèse des personnes que le texte appelle des disciples. Et ces personnes, le texte nous dit qu'elles ont cru, mais ils n'ont pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc Paul les enseigne, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus, Paul leur impose les mains et le Saint-Esprit vient sur eux. Donc l'application qu'on peut tirer de ces passages et de ces situations, c'est la nécessité d'enseigner avec exactitude et de manière exhaustive, de manière complète, la parole de Dieu. Alors est-ce que tous ces gens, Corneille, Marie, Lydie, Apollos, les apôtres, les disciples d'Éphèse, est-ce qu'ils étaient sauvés avant d'avoir reçu cet enseignement? Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est, comme je le disais, qu'ils étaient la bonne terre qui est prête à recevoir la parole avec un cœur honnête et bon. Mais si on veut être sûr que les gens soient sauvés, que les personnes soient sauvées, alors il faut leur annoncer l'Évangile. On a un autre passage dans Hébreux 5 qui nous parle de différents degrés dans la connaissance, d'une façon peut-être un peu plus sévère. Et donc il utilise l'image du lait pour les enfants et d'une nourriture solide pour les hommes faits. Et en fait, l'auteur d'Hébreux réprimande ses lecteurs ou ses auditeurs car il leur dit « vous en êtes encore au lait ». Donc le Seigneur ne nous a pas seulement envoyé annoncer la bonne nouvelle, il nous a envoyé faire des disciples. Et pour cela, il faut proclamer tout le conseil de Dieu. Hein? Donc je lis pour vous les paroles de notre Seigneur à la toute fin de l'évangile de Matthieu. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout. Tout ce que je vous ai prescrit. » Et Paul dit aux Éphésiens, en acte 20-27, qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être assidus dans la lecture quotidienne de la parole, tous les jours de notre vie. Nous devons saisir toutes les opportunités de recevoir l'enseignement en participant au culte dimanche, aux études bibliques. Et je ne saurais trop insister encore une fois sur la nécessité de mémoriser le catéchisme comme vous le faites dans cette Église. Les grandes hérésies, comme celles sur la Trinité, sur la personne de Christ ou sur le salut, elles proviennent de la part de chrétiens d'un manque de connaissance de la parole et d'un manque de précision dans son interprétation. Vous ne voulez pas en rester au lait. Vous ne voulez pas en rester au lait. Vous voulez de la nourriture solide. Ne pas avoir la connaissance quand vous n'avez pas reçu la révélation, n'est pas un péché. Corneille n'était pas pécheur. Apollos n'était pas pécheur. Ils n'avaient pas reçu la révélation. Mais ne pas rechercher la révélation quand vous savez qu'elle existe, ou pire, refuser de l'entendre, ça, c'est un péché. Une fois, une personne m'a dit « Tout ce que je veux savoir, c'est que Jésus est mort pour mes péchés. Le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est pourquoi je ne lis pas la Bible. » Eh bien, ça, c'est une attitude de rébellion. Car Jésus a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, à nouveau, ce qui a caractérisé toutes ces personnes dont nous avons parlé, c'était leur bonne volonté pour recevoir l'enseignement. Apollos, qui était un homme éloquent et versé dans les Écritures, il a réagi pourtant avec humilité. Il a reçu de bonne volonté l'enseignement d'Aquilas et de Priscille. Et il en est de même de tous les autres. Corneille, il avait invité tous ses parents et amis. Ces gens, ils avaient soif de la parole et un esprit bien disposé. Ils étaient manifestement prêts à donner leur assentiment, prêts à reconnaître la vérité de l'enseignement pourvu qu'on veuille bien le leur donner. Ces gens étaient, pour utiliser un terme que j'utilisais la semaine dernière, ils étaient enseignables. Mais ce n'est pas le cas de tous. Ce n'est pas le cas de tous. Et c'est la deuxième défaillance dans la foi que nous voulons regarder. Donc la première défaillance, c'est le manque de connaissance. Et on peut facilement remédier cette défaillance simplement en se soumettant à l'enseignement. Mais la deuxième défaillance, elle est beaucoup plus grave, c'est, une fois qu'on connaît la parole, refuser de connaître qu'elle est vraie. Et vous allez peut-être être surpris, mais ce n'est pas seulement les incroyants, mais c'est aussi les croyants qui sont défaillants en la matière. Alors évidemment, refuser de connaître la vérité de la parole, c'est là, généralement, que les incroyants manifestent leur incrédulité. Ils peuvent avoir une très bonne connaissance de l'enseignement de la Bible, ils peuvent être agrégés de théologie, vous en avez plein dans les universités, mais pour eux, tout cela n'est qu'un sujet d'étude, ils n'y croient absolument pas, dans le sens où ils ne croient pas que c'est la vérité. Ils n'y donnent pas leur assentiment. Cela ne nous surprend pas de leur part, ils ne sont pas chrétiens. Mais de la part de chrétiens, cela est nettement plus grave et nettement plus surprenant. Et pourtant, cela se produit très clairement dans la parole. Et on va voir deux exemples de croyants qui sont tombés dans ce piège, des croyants authentiques, le premier dans l'Ancien Testament et le second dans le Nouveau. Et je vais les lire presque sans donner de commentaires. Et je vous demande donc d'ouvrir vos Bibles, tout simplement en Genèse, au chapitre 3. Et on va lire du verset 1 à 6. Donc le premier exemple, en effet, que je vais vous donner, c'est celui d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Ils avaient reçu la connaissance, ils l'avaient acceptée, ils savaient qu'ils pouvaient manger de tous les fruits, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au risque de mourir. Et regardons donc ce qui se passe en chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc ça, c'est le premier passage dans l'Ancien Testament. Et le deuxième passage, il concerne Pierre, et donc il se trouve dans nos Bibles. On va regarder en Matthieu 16, versets 21 à 23, vous l'avez aussi en Marc 8, mais donc Matthieu 16, versets 21 à 23. Donc là, c'est le personnage de Pierre. Et au verset 21, chapitre 16, Matthieu. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc dans ces deux passages, Genèse 3 et Matthieu 16, nous avons des croyants, donc des membres du peuple de Dieu dans les deux cas, qui ont reçu une révélation de la part de Dieu. Pour Adam et Ève, c'était un commandement. Pour Pierre, c'est une annonce de la crucifixion à venir. Et dans les deux cas, Satan, nous avons vu que c'est Satan, qui nie cette révélation. Et Adam et Ève, d'une part, et Pierre, d'autre part, eh bien, il croit Satan plutôt que Dieu. Dans les deux cas, il refuse d'accepter que la révélation de Dieu est vraie. Il refuse de donner leur assentiment à la révélation de Dieu. Adam et Ève, nous ne mourrons pas. Non, non, nous ne mourrons pas si nous mangeons du fruit. Et Pierre, non, Jésus, tu ne seras pas mis à mort et tu ne ressusciteras pas. Remarquez la gravité de ce péché. La gravité des conséquences de ce péché. Par ce péché, Adam et Ève ont précipité l'humanité tout entière dans la misère dans laquelle elle se trouve depuis 6000 ans. Quant à Pierre, il était tout simplement en train de souhaiter que ne se produise pas la seule chose qui pouvait corriger le péché d'Adam et Ève. Heureusement, le péché de Pierre n'a pas eu les conséquences, pour nous en tout cas, de celui d'Adam et Ève. Toutefois, à son niveau à lui, il en a payé les conséquences. Car si Pierre avait accepté dès le début, dès ce moment, la révélation donnée par Jésus de sa mort et de sa résurrection, peut-être qu'il aurait pu se préparer psychologiquement à ce qui allait se passer et qu'il n'aurait pas renié le Seigneur comme il l'a fait. Ces deux épisodes nous montrent que bien que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de rejeter la vérité de la parole de Dieu. Ça me paraît évident. Soit parce que les conséquences ne nous plaisent pas, comme pour Adam et Ève, soit parce qu'elle ne correspond pas à notre façon de voir les choses. Et combien de fois nous accordons plus d'importance à notre façon de voir les choses qu'à la parole de Dieu. Pierre, il s'était fait son idée sur le rôle de Jésus, sans doute que comme les autres juifs de l'époque, le Messie était pour lui un leader politique qui allait les libérer des Romains. Et la crucifixion de Jésus ne cadrait pas du tout avec cela. Remarquez dans les deux cas que ces défaillances de la foi viennent de Satan. Les défaillances de la foi viennent de Satan dans les deux cas, la défaillance de la foi des chrétiens. Satan et ses démons sont toujours là pour contredire et rejeter la vérité de la parole. Et ils utilisent toujours la même phrase, la phrase préférée, « Dieu a-t-il vraiment dit ?»« Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et nous susurrent ces mensonges à l'oreille avec cette question « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et ils l'appliquent sur les thèmes sur lesquels il sait que nous avons des doutes ou des tentations. Et je vais en citer quelques-uns qui, à mon sens, sont particulièrement sévères en ce moment dans l'Église contemporaine. Par exemple, Dieu a-t-il vraiment dit qu'une femme doit être soumise à son mari ? Est-ce que Dieu l'a dit ? Dieu a-t-il vraiment dit qu'une femme ne doit pas enseigner ni prendre d'autorité sur l'homme ? Dieu a-t-il vraiment dit que l'homosexualité est un péché ? Dieu a-t-il vraiment dit qu'un mariage est nécessairement entre un homme et une femme ? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il est le divorce ? Dieu a-t-il vraiment dit que l'avortement est un meurtre ? Dieu a-t-il vraiment dit que je dois me soumettre à mon patron ? Dieu a-t-il vraiment dit que ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas manger non plus ? Dieu a-t-il vraiment dit que l'enfer est éternel ? Et sur toutes ces choses, pas en dehors de l'Église, mais dans l'Église, vous trouverez des gens qui mettent ça en doute. Aujourd'hui, dans l'Église dans laquelle nous vivons. Mais dans tous les cas, le remède à ce genre de doute, c'est de passer du temps dans la parole. Parce que si vous lisez systématiquement la parole, tous les jours, de façon à couvrir la totalité de la Bible, vous aurez la réponse à chacune de ces questions de la façon la plus claire qui soit. Et à beaucoup d'autres que vous vous posez sans doute. Et vous verrez que Dieu l'a vraiment dit. Donc voilà pour la défaillance en matière de connaissance, défaillance en matière d'acceptation de la vérité de la parole. Et la troisième défaillance que nous voulons regarder, c'est peut-être celle à laquelle vous auriez pensé dès le début, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance. Je lis à nouveau ce verset du livre des Nombres que j'ai lu tout à l'heure, 14:11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de toi ?» Donc cela se produit lors du refus du peuple juif de prendre possession de la terre de Canaan. Donc Moïse a envoyé des espions, parmi lesquels il y avait Josué et Caleb, mais il y avait aussi 10 autres espions. Et donc au lieu d'écouter Josué et Caleb, qui encourageait le peuple à aller prendre la conquête de Canaan. Donc voilà ce que disent Josué et Caleb. Ils disent « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Donc ils n'écoutent pas Josué et Caleb, ils préfèrent écouter les 10 autres espions et ils refusent de partir à la conquête de Canaan. Ils sont même prêts à lapider Caleb et Josué. Et l'Épître aux Hébreux, il nous parle de ce passage. Si vous voulez bien ouvrir avec moi, Hébreux chapitre 3, donc je lis à partir du verset 10, enfin 17 à, et on continuera dans le chapitre 4. Hébreux chapitre 3, verset 17. Et donc ça fait référence à cet événement. « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert ?» Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Chapitre 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Donc vous pouvez entendre la parole, vous pouvez donc avoir la connaissance, comme l'avaient ces gens-là, vous pouvez même y donner votre accord sur le plan intellectuel, mais si vous ne mettez pas votre confiance dans cette parole, comme ces hommes ne l'ont pas fait, le peuple d'Israël, et si vous n'agissez pas en fonction de cette confiance, eh bien cette parole elle ne vous sert de rien, vous n'entrerez pas dans le repos de Dieu, en d'autres termes, vous n'hériterez pas de la vie éternelle. C'est ça qu'il nous dit. Si vous entendez la parole, mais vous ne mettez pas votre foi dans cette parole, vous n'agissez pas en fonction de cette foi, ça ne vous sert à rien, vous n'entrerez pas dans la vie éternelle. J'ai fait référence tout à l'heure à cette citation qui m'a été envoyée par frère Timothée, et qui dit que le manque de confiance en Dieu, ça revient à douter de sa souveraineté et mettre en question sa bonté. Donc vous doutez du fait que Dieu est souverain, et vous doutez du fait qu'il est bon. C'est exactement ce que firent les Juifs dans cet épisode. Ils doutent de la bonté de Dieu, et je lis pour vous ce qu'il nombre 14:3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Donc ils doutent de la souveraineté de Dieu, puisqu'ils ne croient pas capable de leur garantir la victoire, et ils pensent même qu'il est méchant et qu'il veut les envoyer à un carnage. Donc voilà pour un passage de l'Ancien Testament. On a de nombreux passages sur le manque de confiance de la part des apôtres dans les évangiles. Et je vais en regarder que deux, parce qu'il y en a plus que ça. On va en regarder deux, et si vous voulez bien, allez dans l'évangile de Marc. Donc c'est un passage qui se produit après que, par deux fois, Jésus donc ait fait la multiplication des pains. Donc évangile de Marc, chapitre 8. Et on va lire à partir du verset 13. Marc 8, verset 13. « Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus l'ayant connu leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ?» 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Donc les disciples sont dans la barque, ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas de pain. Ils ont été témoins des miracles où Jésus a nourri une fois 5 000 hommes, l'autre fois 4 000 hommes. Ces miracles auraient dû leur faire comprendre la toute-puissance de Christ et sa volonté de prendre soin de son peuple. Ces miracles, ils étaient une illustration de ce qu'on lit en Matthieu 6, verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Ils n'avaient vraiment aucune raison de se faire du souci pour la nourriture. Et pourtant, ils ne comprennent pas, au point que Jésus en est étonné. Il est vraiment étonné et il pose ces questions. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous pas de mémoire? Et plus loin encore, et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? C'est comme s'il disait, que vous faut-il de plus? Il y a donc un ton de reproche dans ces paroles, dans les paroles de Jésus. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Ils ont reçu la connaissance, ils étaient aux premières loges, ils ont vu la multiplication des pains, ils ont eux-mêmes distribué le pain et les poissons deux fois. Et ils savaient qu'il n'y avait quasiment pas de pain et de poisson au départ, mais ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas le manque de compréhension, par exemple, de l'eunuque éthiopien qui était dans son voyage de retour, où Philippe est venu, il était en train de lire Ésaïe 53, et Philippe lui a expliqué. Et ce manque de compréhension de l'éthiopien, il a été très vite corrigé par l'enseignement de Philippe. Non, ici, le manque de compréhension des disciples, il est proche du manque de confiance, en fait. Ce qu'on a ici, c'est une sorte d'obscurcissement de l'intelligence. On est témoin des œuvres de Christ dans sa parole, mais à cause de notre compréhension enténébrée, on n'arrive pas à nous appliquer à nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ, il utilise cette expression très dure, le cœur endurci. Il leur dit, avez-vous le cœur endurci? C'est une expression qui est utilisée pour parler de Pharaon. Est-ce qu'il nous arrive de lire des passages et de ne pas les comprendre? Et on les a lus, on les a relus, et on est exactement comme les apôtres. Ça ne rentre pas, ça ne pénètre pas dans notre intelligence. Par exemple, nous lisons ceci. Je lis pour vous, ça, c'est extrait de Romains, Romains 4. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. On lit ce passage glorieux et pourtant on est toujours sous le poids de notre culpabilité et notre conscience n'est pas purifiée des œuvres mortes. Et le Seigneur Jésus nous dit, ne comprends-tu pas encore? Donc on a ce risque d'avoir, comme les disciples, toute la révélation qui nous est donnée, toute l'explication qui nous est donnée, c'est devant nous, comme on dit, comme le nez au milieu du visage, et pourtant, on a l'intelligence obscurcie, on ne comprend pas. On va regarder un dernier passage dans également l'évangile de Matthieu. Enfin là, c'est dans l'évangile de Matthieu, tout à l'heure c'était Marc. Donc c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. C'est le passage bien connu où Pierre marche sur les eaux. Donc si vous voulez bien tourner dans vos Bibles, Matthieu 14, verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre leur répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Donc le manque de confiance qui est manifesté par Pierre dans ce passage, il est d'une nature différente que le manque de compréhension des disciples à propos du pain. Pierre, il est convaincu, n'a pas de doute que Jésus est capable de le faire marcher sur les eaux, à tel point qu'il lui demande de lui ordonner de marcher avec lui, de marcher vers lui. Mais voilà, Pierre se trouve au milieu de l'eau, c'est la nuit, il est au milieu du lac, il y a du vent, le lac est agité, il y a des grosses vagues. Et là, il voit Jésus à quelques mètres, même s'il voit Jésus à quelques mètres de lui, il commence à douter, il commence à avoir peur, les circonstances hostiles prennent le dessus, il flanche. Et il se met à couler. Cet épisode, c'est la manifestation du doute devant des circonstances hostiles. Un homme qui est sincèrement croyant, il aime le Seigneur, mais devant la circonstance hostile, il se met à flancher. Et en un sens, son reniement un peu plus tard, lors du procès de Jésus, n'est pas d'une nature très différente. Et face à des circonstances menaçantes, il perd pied, il perd sa confiance et il va jusqu'à le renier. La foi, elle est mise à l'épreuve par les circonstances de la vie. Des soucis, une série de soucis professionnels, familiaux, de santé, peut-être même une persécution pour Christ qui a poussé plus d'un homme qu'on croyait solide au reniement. Le Seigneur nous a mis en garde là-dessus. Il nous a dit, et nous devons méditer ses paroles, il nous a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La tribulation, c'est le sens de pression. On aura des tribulations dans le monde, on a tous des tribulations, comme j'ai dit, de toutes sortes de natures. Mais prenez courage, dit-il, j'ai vaincu le monde. Et donc nous devons nous préparer à ces tribulations, quelle que soit leur forme. Voilà, je vais conclure mon message et je vais résumer donc les causes d'incrédulité du peuple de Dieu que nous avons étudiées aujourd'hui, afin que nous les gardions bien à l'esprit. La première cause, c'est un manque de connaissance. Pour avoir la foi en Jésus-Christ, il faut d'abord connaître sa révélation. Très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils sont chrétiens et ils n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Une foi chrétienne solide, elle se construit sur une solide connaissance de la parole de Dieu, mais également une connaissance des grandes doctrines, telles que vous les enseignent vos pasteurs au travers des questions de catéchisme. C'est quelque chose de merveilleux. Il ne s'agit pas seulement d'avoir lu la Bible en entier une fois dans sa vie, c'est déjà bien, mais il faut la lire de façon systématique tous les jours de sa vie. La Bible, ce n'est pas un roman. Je l'ai lu. La Bible, ce n'est pas comme un roman qu'on a lu et puis on le met dans son... C'est quelque chose qu'on lit tous les jours de sa vie. On le lit, on le relit. Et la meilleure approche, c'est des plans de lecture de la Bible en un an, que je vous recommande vivement. La deuxième cause, donc la première, c'est le manque de connaissance. La deuxième cause, c'est la remise en question de la vérité et de la révélation. Ça se produit quand Satan vient dire à notre oreille, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Sur tout un ensemble de sujets sur lesquels il veut nous tenter. Dès que vous voyez des doutes qui surgissent en vous sur la parole, c'est Satan qui est en train de dire « Dieu vous a-t-il réellement dit ?» Dieu a-t-il réellement dit ? Et le remède, c'est le même que pour la connaissance. Lisez et relisez votre Bible. Et vous aurez la réponse au mensonge de Satan. Exactement comme Jésus, lorsqu'il fut tenté dans le désert, qui dit, qui put répondre à Satan, il est écrit. Chaque fois, il a répondu, il est écrit. Mais pour pouvoir répondre à Satan, il est écrit, il faut savoir ce qui est écrit. Donc, lire et relire la Bible en avoir une connaissance complète et profonde. Et on peut être également donc soumis, on l'a vu troisièmement, à un manque de compréhension qui est réellement un obscurcissement de l'intelligence, un brouillard d'incompréhension et d'incrédulité qui nous empêche de nous approprier les promesses de Christ. C'est une sorte d'endurcissement du cœur. Pour moi, c'est la chose la plus inquiétante. Et on doit lutter contre ces choses, d'abord en étant sur nos gardes, en les identifiant entre en nous, et ensuite en priant le Seigneur qu'il lève ce brouillard d'incompréhension et d'incrédulité, qui nous éclaire, qui nous montre la vérité, qui nous donne de comprendre. Parce que c'est son Saint-Esprit qui nous fait comprendre les choses. On peut manquer de confiance dans le Seigneur et douter de sa souveraineté et de sa bonté, comme le faisaient les Juifs dans le désert. Ils ont douté de sa souveraineté, ils ont douté de sa bonté. Pour moi, le remède contre cela, c'est de méditer sur toutes les preuves de la souveraineté et de la bonté de Christ qu'on trouve dans la parole, et la plus importante, c'est la croix. Méditons sur la mort de Christ sur la croix pour nous, et nous aurons la preuve manifeste de sa bonté, il montre son amour sur la croix, et aussi de sa souveraineté, parce qu'il est sorti de la mort. Et enfin, on doit se préparer aux tribulations sous toutes les formes, qu'elles soient de la persécution, de la maladie, des problèmes professionnels, etc., qui mettent sur nous une forte pression et qui nous font douter dans notre confiance en Dieu. Je conclurai par ce verset, Éphésiens 6, 14. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.